Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode pour le podcast Moyen-Âge et Fantasy. Fantasy et Moyen-Âge, on le dit dans les deux sens, c'est un livre qu'on prépare évidemment avec Anne Besson et Victor Batagion. On est en plein crowdfunding et puisqu'on est en plein crowdfunding, eh bien, on a monté un petit podcast pour accompagner l'opération et on en profite pour discuter un petit peu avec tous nos partenaires, tous les gens qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir nos camarades de la garde de nuit, Aurélie, Patricia et Chris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Salut.
Alors, peut-être un petit mot de présentation. La garde de nuit, évidemment, c'est lié au trône de fer de George Martin, mais allez-y, présentez-moi un petit peu la garde de nuit. Qu'est-ce que c'est ? Qui veut commencer ?
Bon, on va laisser la main à la présidente, peut-être, non ?
Voilà. Alors, la garde de nuit, c'est la plus grosse communauté francophone autour du Trône de Fer de George Martin, des séries qui sont dérivées de sa saga du Trône de Fer, donc Game of Thrones et plus récemment House of the Dragons. Et c'est aussi, du coup, un site internet qui regroupe un forum de discussion, une encyclopédie en ligne de quasiment 8000 articles.
Waouh!
Du coup, c'est aussi un blog d'actualité sur lequel donc, on relaye les actus séries, livres, où on espère que Winds of Winter sera un jour annoncé pour qu'on puisse le mettre en actu sur le blog. C'est aussi un blog sur lequel on partage des analyses littéraires autour des livres de Martin. Voilà, c'est aussi récemment un podcast, on a une chaîne Twitch maintenant, on a des réseaux sociaux, enfin, voilà, c'est un gros site internet autour de Westeros, ouais, de George Martin.
J'ai vu qu'il y avait plein de news, c'est évidemment ultra riche, en plus un wiki, enfin vous avez bossé tous et toutes comme des fous. Il y a une grosse partie actu, qui participe, comment ça se passe, comment vit un petit peu l'association?
De manière, en fait, j'ai envie de dire de manière très horizontale pour le coup, hein, mais c'est celui qui se sent qui le fait, quoi. On n'a pas un système de plusieurs chroniqueurs et généralement celui qui est disponible pour faire l'actu assez rapidement ou qui a envie de se lancer dedans s'en occupe et derrière les autres chroniqueurs relisent et on publie, quoi.
Ouais.
C'est ça, on est une bonne dizaine de chroniqueurs blog. À ça s'ajoutent des modérateurs sur le site, des modérateurs sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, c'est toute une équipe derrière. C'est aussi des contributeurs sur le wiki qui sont pareil. On a une petite dizaine de gros contributeurs. Et donc, voilà, c'est un site très communautaire. Et qui est né en 2005, donc qui est aussi le fruit du travail de plein de gens avant nous. Donc voilà, ça fait 17 ans que ça tourne et on espère que ça fera encore 17 autres années.
Hein. Ouais, 17 ans, c'est vénérable. Vous commencez vous commencez à être vieux.
Un peu. Hein.
Bientôt la majorité, bientôt le droit à l'alcool, hein, voilà.
Alors ouais, je vous le souhaite, hein, évidemment. 17 ans, 8000 articles, est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir et des sujets sur lesquels écrire sur l'univers du Trône de Fer?
Oui, oui, encore beaucoup de choses. Alors effectivement, ce seront moins des éléments d'actualité ou des théories, comme par exemple de qui John est le fils, etc. Ou ça, pour le coup, ça fait quand même bien longtemps que on a beaucoup d'éléments. Comme il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on a un peu fait le tour. Par contre, ça va être des éléments un peu plus de détails en ce moment sur le site et depuis 2020, un petit peu avant le confinement, on a lancé une relecture de la saga chapitre par chapitre, où en fait chaque relecteur va prendre un chapitre et en faire un petit résumé, et ça part souvent dans une analyse de symboles, de « oh tiens, là on n'avait pas vu un détail, etc. » Et en fait on se rend compte que même si ça fait 10 ans qu'on a lu la saga et qu'on l'a revue 3 fois, en fait il y a des choses qui nous avaient échappé, et ça nous permet aussi d'apprécier la richesse, hein, de l'écriture de Martin, de son univers, et de toutes les analyses qu'on peut faire. Et à côté de ça, il y a aussi des analyses un peu plus universitaires, ou alors qu'on fait sur le blog également, un peu plus construites, sur des analyses historiques, littéraires, quelles inspirations, etc.
Comment vous faites justement pour ces analyses? Il y a un système de double, de triple relecture pour être sûr que tout ce qui est dit, il n'y a pas de bêtises, par exemple. Comment est-ce que vous faites en interne justement quand il y a une analyse qui est écrite?
Bon, on la soumet, et après, effectivement, il y a de la relecture. On a souvent, sur une analyse particulièrement, on a souvent tous les chroniqueurs qui s'y mettent pour la relire, s'assurer qu'il n'y a pas de choses erronées, ou en tout cas que les arguments qui sont avancés dans l'analyse tiennent à quelque chose d'assez tangible pour être mis en avant, puisque c'est quand même quelque chose, enfin, on va dire en termes de crédibilité, on y tient quand même un petit peu. Et puis, il faut que ce soit du solide, parce qu'on ne veut pas publier quelque chose dont le contenu est ou trop flou ou trop loin du matériau d'origine.
Est-ce que le fait que là on est entre deux temps, entre la fin de la série et les spin-offs, est-ce que vous sentez qu'il y a un peu plus d'excitation là qui monte à l'instant T avec le spin-off qui arrive, House of Dragons?
Alors on sent qu'il y a un intérêt pour House of the Dragons. À chaque news de House of the Dragons, on voit un bond de fréquentation sur le site, donc ça ne trompe pas. On se dit qu'a priori, les gens ont une attente, ça y est, ils ont un peu fait le deuil de la saison 8 et ils vont avoir leur nouveau fixe Game of Thrones, donc je pense qu'il y a une petite attente. Après, pour l'instant, l'attente reste modérée et je pense que justement à cause de la déception de la saison 8, les gens restent quand même circonspects, et donc la série est attendue au tournant, donc on verra bien en août ce que ça va donner, mais curieux et on verra.
Ça, pour le coup, c'est un commentaire qu'on a beaucoup eu le week-end il y a 2 semaines quand on était aux Imaginales. Beaucoup de gens qui soit mettaient un peu de recul dans leurs commentaires en disant « Ah oui, il va y avoir une nouvelle série, mais par contre, comme j'ai été beaucoup déçu par la saison 8, je vais y aller mollo en termes d'excitation pour pas être trop déçu, quoi. » Et en même temps, il y a aussi des gens qui ont dit « Ah non, mais en fait, ça m'intéresse pas parce que la dernière fois, j'ai été trop déçu aussi. » Donc, on sent quand même que c'est un peu tiède, en tout cas dans les gens qui viennent nous parler. Après, il y a une catégorie de gens qui sont aussi peut-être excités, mais qui ne viennent pas nous le dire. Mais voilà, quoi. On sent que c'est voilà, et comme disait Patricia, c'est attendu au tournant. Je pense que ça va être décisif pour le public, en tout cas, le nôtre, en tout cas celui avec lequel on peut discuter. Ça va être décisif de voir comment se passe la saison 1 de House of the Dragon et comment elle est reçue, quoi.
Aurélie, tu parlais tout à l'heure des analyses, et notamment des analyses historiques. Alors ça me fait un pont parfait avec l'autre sujet. Puis c'est vrai qu'on en a parlé aux Imaginales, il y avait une table ronde sur le sujet. Il y a des liens, et évidents, souvent on cite la Guerre des Roses comme par exemple l'inspiration de Game of Thrones, du Trône de Fer. Comment est-ce que George Martin y gère ça un petit peu, ces liens avec l'histoire? Est-ce que c'est un gros amateur d'histoire? Est-ce qu'il suit fidèlement les événements historiques? Est-ce que simplement il s'en inspire? Voilà, c'était la conférence, il y avait une heure. T'as 3 minutes.
3 minutes,
c'est
sûr.
Non, je plaisante.
D'accord. Donc, George Martin, c'est pas un historien. C'est quelqu'un qui a une formation de journaliste, qui s'intéresse à l'histoire en tant qu'autodidacte. Et il va surtout beaucoup, beaucoup puiser dans tout ce qui est fiction historique. C'est vraiment son grand truc, la fiction historique. Alors effectivement, on ressort beaucoup Maurice Druon, hein, qui est l'universitaire français qu'on met en avant. C'est clairement pas le seul. C'est pas le seul. C'est un parmi d'autres. Alors évidemment, on peut parler de Shakespeare. On peut parler aussi d'autres auteurs qui sont pas du tout connus en France, mais par exemple Sharon K. Penman ou Rosemary German ou Thomas Costain aussi. Hein, qui est un auteur canadien, qui ont beaucoup écrit, alors plutôt sur les Plantagenets, qui est une grosse inspiration de George Martin. Mais voilà, il aime bien tout ce qui est fiction historique. En fait, ce qu'il aime bien dans l'histoire, ce sont les histoires, c'est le potentiel narratif qu'il y a dans le récit. Et du coup, la façon dont il aborde l'histoire, c'est vraiment en tant que narration, en tant qu'élément événementiel, hein, plus que les analyses plus profondes et recherchées des historiens. Ça va pas quand même l'empêcher d'aller piocher dans des ouvrages de vulgarisation beaucoup plus spécifiques quand il a des questions techniques, notamment sur l'armement, notamment sur les tournois, etc. Et on a, alors il a donné quelques ouvrages de référence qu'il utilise. Alors ce sont des ouvrages qui sont aujourd'hui assez datés, mais en tout cas qui, à l'époque, il s'était plongé dedans. Alors il fait ça pour le Moyen-Âge en particulier, et c'est vraiment la période qu'il met plus en avant que les autres, même si c'est pas la seule. Mais c'est une période qu'il aime beaucoup pour son potentiel narratif et aussi pour l'image, hein, qu'elle peut véhiculer cette période-là.
Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une question sur les systèmes politiques mis en place? Est-ce qu'il a piqué des choses à l'histoire, hein, dans ce qu'il met en place sur les féodalités et les royaumes, hein?
Je veux bien répondre, mais du coup, il reprend beaucoup la féodalité style XIIe siècle, mais avec aussi des interventions du XIVe, XVe siècle sur la lutte autour du pouvoir royal cette fois-ci. Et on sent qu'il a quand même fait des recherches et qu'il est assez précis et détaillé dans le système qu'il va mettre en place. Ça reste évidemment simplifié, hein, parfois raccourci de façon un peu fausse, mais il a vraiment un soin à décrire les mécanismes, notamment en lien avec la question de la légitimité. Hein, qui est légitime au pouvoir, comment est-ce qu'on accède au pouvoir, comment est-ce qu'on le garde, comment est-ce qu'on le conserve. Et c'est vrai qu'il s'appuie pas mal sur des événements ou des faits historiques qu'il va ensuite transformer, mettre en récit pour créer sa propre narration et ses propres intérêts.
Oui, vas-y.
Non, c'est bon.
Moi, j'ajouterais quand même que au cœur restent les personnages. Et s'il se sert de l'histoire pour nous faire un cadre un peu crédible, un cadre qui nous semble nous parler, c'est pour avant tout mettre en place des récits de personnages. Et il dit régulièrement que lui, ce qu'il veut, c'est voir les conflits internes des personnages, les personnages face à leur propre division, leurs propres sentiments. Et donc, tout ça reste toujours à une fin littéraire. Et voilà, on n'est pas dans un récit de fiction historique, on est vraiment dans un roman avec des personnages et qu'on veut suivre avant d'être un patchwork d'histoire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de crédibilité en piochant dans l'histoire? Tous ces événements semblent vraisemblables ou réels? Il y a une sorte de tenue de crédibilité dans ce qu'il raconte?
Ben c'est ça, c'est qu'il va nous placer dans un univers qui nous semble familier en piochant dans des clichés, souvent, pas forcément des choses qui sont véridiques, mais des choses qui, à nos yeux de lecteurs, et encore plus aux yeux de lecteurs américains qui ont une vision peut-être romancée du Moyen-Âge, il va créer un théâtre pour faire vivre ces personnages. Et ce théâtre va nous sembler familier et donc crédible et vraisemblable, dans le sens où, pas forcément comme ça a vraiment existé, c'est la réalité, mais c'est possible. On a quelque chose qui nous semble cohérent et crédible.
Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi de connivence? Parce que je trouve ça assez malin, par exemple, quand il cite le mur d'Adrien, on a tous une projection mentale et quelques souvenirs de nos cours d'histoire, et du coup, ça nous raccroche à quelque chose qu'on connaît un petit peu, et ça renforce un petit peu ce sentiment de connivence avec lui et avec son histoire. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Est-ce qu'il en joue?
Je pense qu'il y a un côté jeu vraiment, enfin ludique avec le lecteur qui est assez fort. Il y a énormément de références, alors des choses très très connues, on pense aux 7 merveilles du monde, enfin en 30 secondes vous allez en trouver au moins 2 ou 3, même sans être, enfin en connaissant à fond l'univers, vous allez en trouver, et il y a aussi pas mal de fois où il prend une référence et il va un petit peu la retourner, ou alors la diviser en deux. Et ça fait un petit peu, c'est vrai que le lecteur du coup va pouvoir se dire, ah bah tiens, là j'ai vu cette référence là, est-ce qu'il n'y en a pas une deuxième à côté, est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui est retournée, par exemple un truc tout bête, alors là je prends de la facilité mais c'est la première qui me vient en tête, c'est que Port-Réal ressemble beaucoup à Constantinople, mais une Constantinople inversée d'un point de vue géographique en fait, et il y a plein de petits points comme ça qui va disséminer dans tout son récit, et au lecteur ensuite d'aller prendre sa petite loupe et d'essayer de regarder tout ceci.
Ouais, c'est encore plus intéressant quand on sait, je pense notamment au mariage sanglant, quand on sait qu'il peut y avoir une inspiration historique, on va aller regarder, il y a un peu de ça, quoi.
Ouais, y a un jeu aussi, une fois que tu as les clés, tu peux relire aussi la saga, en voyant en dessous quelles sont les inspirations et ce qu'il en a fait, donc quand même un jeu de questions-réponses entre l'histoire et l'histoire de Martine, du coup. Qui opère, et effectivement tu peux jouer à ah bah non ça se termine pas tout à fait pareil, mais du coup c'est aussi une invitation je pense pour le lecteur à aller voir un peu ce qu'est l'histoire et comment se sont réellement passés les événements, souvent de manière beaucoup, beaucoup moins on va dire flamboyante que chez Martine, mais en tout cas aller voir quelle est la réalité derrière, enfin quelle est l'historicité derrière en tout cas.
Vous l'avez tous relu j'imagine au moins une fois, non? Combien? Allez.
Si seulement il y avait qu'une fois.
Vous l'avez lu combien de fois chacun et chacune?
Moi, je compte plus, mais en même temps, moi, j'étais déjà sur le forum en 2005 quand il est né, donc il y a prescription, quoi.
et toi, Aurélie?
Alors moi, de A à Z, je l'ai lu 2 fois. Mais après j'ai passé beaucoup de temps à relire par morceaux en fait, chapitre par chapitre ou personnage par personnage, ce qui fait que bon, je dois être peut-être au moins à la peut-être quatrième relecture, mais par petits morceaux.
D'accord. Et toi, Chris?
Eh bien, moi, de bout en bout, j'ai dû le lire qu'une fois, quand même, je suis en train de me dire, parce que...
On en tient.
Non, mais en fait, ça tient probablement en fait, au forum, parce qu'il y a notamment tout ce qui est des derniers événements. Je sais que Dance with Dragons, donc l'intégrale 5 en français, je ne l'ai relu qu'une fois, parce que sur le forum, comme c'est les derniers événements qu'on a, c'est des événements dont on reparle beaucoup, qui reviennent beaucoup sur la table, et du coup, à force de se les re-raconter sur le forum, à chaque fois que je remets le nez dedans, je me dis, ah oui, non, mais en fait, je sais déjà tout, il faut que j'arrête, donc il y a de ça. Par contre, effectivement, j'ai une lecture un peu en piochant à droite à gauche qui existe, qui, moi, vient plutôt de mon côté rôliste, puisque pour le coup, je masterise dans l'univers du Trône de Fer. Et je vais souvent aller piocher des ambiances ou des informations dans certains chapitres. Si je fais toute une campagne dans le Conflant, ça étonnera pas forcément les gens qui nous écoutent s'ils sont de la garde de nuit, mais du coup je vais aller piocher dans les chapitres, notamment ceux que parfois les gens aiment pas trop, donc les chapitres de Brienne ou des choses comme ça, des ambiances, qu'est-ce qui s'y passe, comment est-ce qu'on peut gérer un peu l'univers. Et du coup, ça donne une relecture finalement assez fragmentée de l'histoire, quoi.
Patricia, à chaque fois, t'as découvert de nouvelles choses quand tu relis le Trône de Fer?
Oh bah ouais, je pense qu'à chaque fois, j'ai découvert des nouvelles choses. Et en fait, à chaque fois, je vois les personnages différemment. En fait, quand j'ai commencé à lire, j'étais en seconde. Je me voyais beaucoup dans Sansa Stark, quoi. Aujourd'hui, je suis plus proche de l'âge de Kathleen. Mécaniquement, j'ai plus les mêmes visions, quoi.
Ouais, forcément, on évolue un petit peu avec le trône de fer, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que l'identification peut changer un petit peu à chaque âge, c'est plutôt chouette, quoi.
Ah oui, mais complètement. Oui. Les personnages sont tellement riches qu'on se retrouve dans chacun d'eux d'une manière ou d'une autre.
Dans quelques
même
années.
Dans les pires, même dans les pires ordures, on arrive quand même à retrouver de la nuance qui fait que. Même si on ne se retrouve pas dedans, encore heureux, on arrive à comprendre leur parcours et leur chemin interne. Et ça, c'est quand même assez, assez fort, quoi.
Tu verras, dans quelques années, on s'identifiera au marcheur blanc à la fin. On a parlé de la série à venir et des séries à venir. On a parlé de ce que pensaient les gens, mais vous, là, tous les trois, vous êtes comment impatient et impatiente de voir la série, frustré de la saison 8 et donc curieux de voir la suite ou un petit peu en recul par rapport à ce qui va arriver.
Plutôt assez impatiente, on va dire. Alors, ça tient aussi au fait qu'on n'a pas vraiment d'actualité livresque. Du coup, on ronge un petit peu notre frein là-dessus. Et pour le coup, les premières images, les premiers teasers de House of the Dragon laisse avoir un univers qui va être assez riche, qui va avoir une identité assez forte. Et bon, enfin, pour l'instant, ça laisse présager des bonnes choses.
Chris ?
Moi, j'étais pas du tout impatient au moment où ils l'ont annoncé, parce que j'avoue que les Targaryens et les dragons dans le Trône de Fer, c'est la partie qui m'intéresse le moins. Du coup, mauvais choix, c'était pas forcément la série que j'aurais voulu voir, mais c'est pas grave. En fait, au final, c'est pas plus mal, parce que quand il y a eu la toute première bande-annonce, je me suis dit, ah, ouais, quand même, ça a l'air cool. Il y a un travail qui a été fait sur tout ce qui est costume. Je trouve vachement intéressant que ce soit un des réalisateurs de la saison 8, bon, un peu décrié, parce que c'est lui qui a réalisé l'épisode qui se passait complètement dans le noir, mais que ce soit lui qui soit showrunner avec quelqu'un d'autre. Je trouve que la manière dont c'est conçu est un peu plus saine, parce que c'est conçu avec un groupe de scénaristes, avec un groupe de réalisateurs et des showrunners qui travaillent ensemble, et non plus deux personnes, trois si on inclut Martin, qui prennent des décisions, enfin surtout Benioff et Weiss sur la fin. Donc on a une manière de faire qui a évolué, qui je pense a évolué dans le bon sens, et il y a aussi la volonté d'être dans une continuité dans ce qu'on voit dans les premières images, tout en s'en détachant, que ce soit les costumes, que ce soit certains décors qui ont vraiment pris une autre dimension. On peut penser à la salle du Trône de Fer, par exemple, avec ces premières images. Et du coup, je suis un peu impatient de voir le travail de réécriture, finalement, qui peut être fait, et de voir comment ça s'articule.
Et toi, Patricia, Madame la Présidente.
Moi, je suis assez optimiste aussi. Alors moi, ce qui me rend optimiste, c'est le fait que, contrairement à Game of Thrones, qui était une saga qui est partie d'une adaptation et qui s'est terminée complètement en roue libre, là, il y a un matériau de base qui est écrit, qui est terminé. Ils ont du coup tous les points essentiels narratifs qui viennent de Martin, qui ont... Enfin, en tout cas, à mes yeux, un vrai potentiel dramatique. Et ils ont un matériau avec des personnages qui peuvent être vraiment passionnants et où ils peuvent vraiment créer dans les interstices de l'histoire des réflexions très modernes, très actuelles. Donc, du coup, je pense que c'est un cocktail qui est en tout cas assez... Enfin, je suis assez optimiste, quoi. C'est faire une bonne série. On verra derrière, mais en tout cas, sur le papier, ça peut marcher.
Une dernière question. La garde de nuit, c'est donc un site, un wiki. Si j'ai envie de proposer une analyse, un article, comment ça se passe? Je vous envoie simplement un petit mot et puis on discute. Comment ça se fait?
Vous pouvez, ouais. En vrai,
pas moi, c'est vraiment un exemple.
Il n'y a pas grand monde qui le fait, mais notre boîte mail est ouverte à tout le monde. On a des contacts, on a des MP, on a des contacts sur les réseaux sociaux et tout. Donc, clairement, si des personnes veulent proposer des analyses dans l'univers, ils sont les bienvenus. Et après, ce sera relu au même titre que toutes nos autres analyses.
Et sachant aussi que, par contre, que le wiki, il est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez modifier à votre guise et remplir les informations qui sont manquantes sur l'encyclopédie. Hein. Pour le coup, il n'y a même plus besoin de s'inscrire aujourd'hui pour l'enrichir de toutes les réflexions et informations manquantes.
Et puis il y a le forum aussi, si vous voulez discuter et analyser. De toute façon, sur le forum, vous aurez toujours quelqu'un pour répondre à vos analyses.
Et qui, pour le coup, est un espace de discussion plutôt bienveillant, contrairement peut-être à Twitter, tu vois. Donc, voilà.
Bon, bah, ça marche. Merci beaucoup à tous les trois.
Eh bien, merci à toi.
Merci, Jérôme. Eh bien, merci.
Voilà, on va vraiment conseiller à tout le monde d'aller voir et lire tout ce qui se passe sur la garde de nuit, partenaire donc de notre co-funding pour notre livre Fantasy et Moyen-Âge. Et puis évidemment, abonnez-vous au podcast, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Merci à tout le monde et bonne journée.